C'est que la fois dernière, on avait beaucoup regardé comment la parole a été confiée à Moïse au prophète et comment là, en fait, l'incarnation donc de Jésus, ça, c'est le même mouvement de Dieu qui veut se révéler aux hommes, mais c'est aussi une sorte, on est à un saut radical et c'est de nature assez différente, enfin bien plus qualitatif et bien plus importante que ce que qui était la révélation qu'avaient transmise les prophètes. Donc on a vraiment comme une parole neuve et une parole un peu définitive aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une nouvelle étape et puis on aura une suivante. Alors oui, on attend Jésus à la fin, au retour glorieux. Mais là, on a tout d'un coup. Simplement, il va nous falloir du temps après. Et ça va être tout l'enjeu de la prochaine fois où on regardera plutôt la partie Église. Donc qu'est-ce qui se passe depuis la révélation en Jésus-Christ. Voilà, pour creuser cette totalité et en bénéficier dans toutes ces dimensions. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc aujourd'hui, on va regarder comment Jésus crie et la révélation, avec un grand L, un grand R, un grand tout ce que vous voulez. Voilà, et comment à travers Jésus, Dieu se dit d'une façon inouïe. Voilà. Et on ne parle pas seulement du texte du Nouveau Testament, puisque là on n'est plus juste sur une voix, un écrit, une parole dite ou écrite, mais on est sur une personne, on est vraiment sur le Christ lui-même qui est parole. Alors la première partie, on va regarder tout ce que le prologue de Saint Jean, qui est vraiment le cœur du sujet. Donc ça nous introduit tout particulièrement sur la fête de Noël, puisque c'est un des textes qui est médité le jour de Noël. Voilà, c'est tout le texte de Jean 1, voilà, tout le premier chapitre de l'évangile selon Saint Jean, et particulièrement la phrase « et le Verbe s'est fait chair » et autour de ça. Voilà. Et ensuite, on creusera des points particuliers sur le Jésus-Verbe incarné. Donc, ce qu'on voit sur le prologue de l'évangile de Saint Jean, il s'ouvre avec ce prologue directement sur le mystère de l'incarnation. Donc, c'est vraiment une théologie qui part d'en haut. On part de Dieu, comment il est, et on dit qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu descend et vient nous retrouver. Voilà. Ce qui est assez différent du mouvement des autres évangiles, qui sont plutôt sur... qui partent de Jésus, l'homme... Et puis, comment est-ce que ça nous parle de Dieu ? Voilà. Donc, les deux sont complémentaires. Hein. C'est évidemment le même Jésus, de toute façon. Voilà, ça nous donne des choses un peu différentes et ça éclaire de façon différente les événements. Donc, on peut dire que Saint Jean, il a plus une approche théologique, d'ailleurs, et moins historique. Voilà. Donc, ce que fait Saint Jean, c'est qu'il essaye vraiment de ressaisir toute l'œuvre du Christ, donc en présentant comme... l'être qui est dans l'intimité de Dieu, donc vraiment en partant de cette unité en Dieu. Et puis, il utilise ce mot de verbe qui est assez inhabituel. Elle n'existe que deux fois dans le Nouveau Testament, en première lettre de Saint Jean, et puis dans l'Apocalypse, donc tous les textes de Saint Jean, d'ailleurs. Voilà. Et ce terme, logos, logos en grec, indique... comment Dieu se dit à travers Jésus, donc comment il est qualifié en fait, et comment il présente Jésus d'une façon qui est englobante, qui est vraiment définitive, qui nous donne la lecture de qui est Jésus. Alors d'abord, qui est ce Logos ? Donc la première référence, et on peut faire un parallèle avec ce qui se passe dans la Genèse, on dit Dieu crée par sa parole, que la lumière soit et tous les textes, etc. Donc on a bien ici une parole qui est en action, enfin qui dit l'action même de Dieu de création. Le verbe qui est dans ce texte-là, dans la Genèse, c'est pas d'abord un discours raisonnable. On n'est pas tout à fait sur la définition classique du logos en grec, qui est plutôt une thématique sur la raison, la logique, donc il y a un discours ordonné, on va dire. C'est pas non plus la proportion, c'est un autre sens de logos. Voilà, elle est vraiment cette parole efficace, cet être en acte et cette parole en acte, voilà, qui réalise ce qu'il dit. On parle de parole performative pour dire qu'elle agit, il n'y a pas de déconnexion entre la parole et l'acte. Voilà, et c'est exactement l'inverse de notre compréhension de la parole où on a tendance à dire parole, mais plutôt des actes. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a une vision de la parole qui n'est pas très efficace, parce que la nôtre ne l'est pas, ou pas complètement. Alors qu'en Dieu, c'est vraiment la parole est elle-même acte, en fait. Voilà. Et donc le Fils de Dieu, quand on dit qu'il est la parole de Dieu, ça veut dire que c'est une parole qui est en acte, et donc elle agit et elle agit dans le monde, dans l'histoire des hommes et dans celle du cosmos aussi. Là, on faisait référence à la création, donc on en est là. Alors, le prologue, il commence à l'imparfait. Donc, je vous invite évidemment à lire le prologue, hein, puis à le méditer plusieurs fois, parce que c'est un très, très beau texte en plus. Donc, l'imparfait, pour dénoter que c'est le temps de l'éternité de Dieu. Voilà, le Verbe était auprès de Dieu. Donc, on est dans cette éternité de Dieu. Et on y entre non pas par l'incarnation, puisque ça n'arrive qu'au verset 14, mais par ce qui se passe en Dieu. Le Verbe était avec Dieu, était tourné au sein de Dieu, etc. Et donc, on est en Dieu. On est comme transporté dans le secret de l'intimité de Dieu pour adorer, contempler, comprendre qui est Dieu et ce secret de Dieu. Et on a, et donc là on est bien avant la création, on est hors temps quelque part, et Dieu était le Verbe. Donc là déjà on a cette notion de Verbe. Et alors ce qu'il faut noter, c'est que là on a le Verbe tourné vers Dieu, c'est comme ça que ça veut dire en fait, donc tourné vers le sein du Père, on pourrait traduire pour être plus précis. Et puis ce qu'on te dit est Dieu, que le Verbe est Dieu sans article, donc on est vraiment sur le Verbe est Dieu au sens la divinité, le Dieu. Et dans le reste du texte, on a un Dieu qui est avec un article. Et à ce moment-là, on parle plutôt, c'est plutôt Dieu le Père, en fait, quand on met cet article. Donc en fait, on a dans ce prologue, dans ces quelques phrases, le Verbe qui n'est pas le Père, puisque manifestement, c'est pas, y a pas l'article quand on parle du Verbe, mais il est pourtant Dieu. Voilà. Donc il y a cette homogénéité ou cette nature identique et pourtant deux personnes séparées. Donc on a comme si on avait en Dieu, donc dans ce secret de l'intimité de Dieu, on a comme un dédoublement de Dieu. Et le terme de parole, de Verbe, nous dit un peu la même chose. C'est comme si on avait un écho. Donc on a Dieu le Père et puis on a comme son écho qui est sa parole et qui est elle-même une autre mode d'être de Dieu, voilà. Et comme si le Père se disait en perfection dans ce Verbe. Alors ensuite, le Logos, il a une mission, donc il a un rôle assigné dans la création. Donc il est tout fut par lui et sans lui rien ne fut. Donc là, on quitte le secret de Dieu et on commence à rentrer dans le dessein de Dieu avec la création. Et donc on voit bien que le Verbe, il est aussi à la création. Tout fut par lui, sans lui rien ne fut. Donc voilà, pareil, là c'est l'action de Dieu. Et le Christ est complètement, le Verbe est complètement intégré à cette action créatrice. Et après, il y a plusieurs notions dans ces quelques premiers versets où le Verbe, en fait, on lui attribue la lumière qui brille dans les ténèbres et éclaire tout homme en venant en ce monde. Alors, deux traductions possibles, éclaire tout homme en venant en ce monde, comme si le Verbe en venant éclairait les hommes. Et puis, l'autre façon de dire, c'est éclaire tout homme venant en ce monde, donc c'est parce qu'il vient qu'il éclaire. Voilà. Bon, enfin, dans les deux cas, c'est un peu la même chose, mais c'est pour montrer que voilà, il est lui-même la lumière. Voilà. C'est pas juste, il apporte pas juste un flambeau. Le deuxième aspect qui est souligné, c'est présent dans le monde qu'il a créé, mais où il passe en partie inaperçu. Donc on a ce Dieu qui est là et pourtant qui est pas dans sa gloire, enfin qui est pas écrasant toute la création. Donc il y a ce mix de à la fois c'est celui qui a tout créé, donc qui est vraiment Dieu en toute puissance, et en même temps il passe inaperçu. Donc présentation du Verbe qui est étonnante. Et troisièmement, c'est la même chose, celui qui vient chez les siens sans être connu, donc même chez les siens, pas seulement dans le monde, mais même chez les siens. Voilà, et en fait, ces trois formes de présence peuvent être prises comme la présence dans le cœur et l'intelligence de l'homme, la lumière, comme la présence dans l'histoire humaine, au sens large, et puis la présence dans le cheminement d'Israël, donc les siens, donc dans son peuple. Voilà. Et donc, c'est les trois présences que Jésus va prendre et qui sont dans la continuité de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et donc, chacune de ces présences est contrariée, en partie rejetée par les ténèbres, par les siens, etc. Donc on voit bien que c'est pas si simple que ça. Et derrière cet engagement, voilà, il y a ce mot de venir qui fait penser à l'incarnation. Voilà. Venir de Dieu pour arriver, venir vers nous. Et ça, c'est le prémisse de l'incarnation. Voilà. Et ensuite, on parle de Jean-Baptiste. Qui nous rapproche dans le temps, donc c'est un peu comme si on était en mode, on est parti de l'intimité de Dieu hors temps, et puis on descend par la création, un peu tout l'Ancien Testament, et puis Jean-Baptiste, et là on est aux portes de l'incarnation. Voilà. Et à ce moment-là, on a le verset 14, et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Voilà, et tous ces « et », tout le texte est ponctué de « et le Verbe s'est fait chair », « et le Verbe était en Dieu », et etc. Donc vous avez « et » à chaque phrase, pour bien montrer que c'est une continuité de dessin, et que c'est pas plein d'actions différentes, c'est le même dessin qui se déroule et qui se modélise et qui débouche sur l'incarnation. Donc on est vraiment dans cette continuité de ce que Dieu veut, et toutes les formes de présence finalement du passé se focalisent sur cette présence unique, où le Verbe s'investit sans retour dans un point du temps et de l'espace. Donc on a une vraie, c'est l'incarnation, on est au sens strict dans notre histoire, dans notre temps et en un lieu, donc pas complètement dans les modalités de l'humanité, et qui cristallise ou qui concentre ou qui focalise, enfin vous prenez le mot que vous voulez, toutes les présences diffuses de l'Ancien Testament, de ce que pouvaient avoir dit les prophètes. Et là, on a en plénitude une concentration de Dieu, et qui est très parallèle avec le mot « il a habité parmi nous ». Donc il a littéralement planté sa tente. Planter sa tente pour un peuple de nomades, bah, c'est vraiment je m'installe. Voilà, il y a quelque chose de clair. Et on a les mêmes mots qui sont utilisés quand il y avait l'arche de l'Alliance, voilà, où il y avait la présence de Dieu. Il plante son arche, voilà, il s'installe. Voilà. Donc on a bien Jésus qui est Emmanuel, Dieu parmi nous. Parallèle avec le tabernacle, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Donc on est bien dans la continuité de ces promesses-là, et là on l'a en plénitude. Voilà, il habite avec eux, et là il l'est vraiment, puisque Jésus est au milieu des hommes. Ils seront son peuple, ça va être aussi toute la suite avec l'Église, et Dieu est avec eux, comme dans l'Apocalypse. On a tout le temps l'histoire. Alors dans ce prologue, ce qu'on voit, c'est que le Verbe, en fait Jésus-Christ, il est vrai homme et vrai Dieu. Donc on est parti de Dieu, on voit qu'il est vrai homme, il s'est vraiment incarné. Et on a cette double nature du Christ qui est montrée là, avec qu'il a à la fois, le Verbe est devenu ce qu'il n'était pas, puisque voilà, il s'est incarné, il a pris chair, et le mot est assez fort. L'immuable, le tout est devenu quelque chose, quelqu'un, pas seulement corps, mais chair. Donc là, on est encore plus... dans l'idée d'assumer tout l'homme. Chair, c'est toute la partie charnelle, c'est toute la partie la plus matérielle qui soit. Et donc, on a bien tout l'homme qui est assumé, y compris dans sa faiblesse, une chair qui est mortelle. Dieu est esprit, et pourtant, le Dieu esprit pur prend sur lui-même la forme d'un serviteur, devient semblable aux hommes et paraît comme un vrai homme. Donc là, on fait le parallèle avec Philippiens. C'est un peu plus loin, le cri Jésus, il y a la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc on a un vrai homme. Et cette présence est objet de contemplation, elle est vue, donc il y a beaucoup, toi le terme, nous avons vu le Verbe, et on parlera tout à l'heure de la grâce et de la gloire. Et puis c'est entendu, puisqu'on a aussi toute la thématique autour de l'écoute et de Jean-Baptiste qui rend témoignage, et de la parole entendue. Donc Jean, il regarde vraiment Jésus dans toute la perspective de sa divinité, et quelque part il s'étonne dans ce prologue, et il démarre par ça, et ensuite il va le traverser dans tout son évangile pour dire comment est-ce que le Dieu Tout-Puissant peut s'incarner, être engendré, devenir la communication ultime de Dieu à l'homme. Voilà, et c'est vraiment le parallèle avec saint Paul, et donc le texte que je viens de vous lire sur l'hymne aux Philippiens. Voilà, on est sur la même idée de comment c'est possible. Enfin, il y a un côté, c'est tellement incroyable, enfin au sens premier du terme, hein, basique, ça paraît tellement démesuré que Dieu Tout-Puissant puisse venir se faire semblable aux hommes. Et chez saint Paul, c'est cristallisé encore plus entre le crucifié et le Seigneur de gloire. Donc on va jusqu'au bout de... Non seulement il s'est fait chair, mais il est mort sur la croix. Donc on est vraiment au bout du bout de l'anéantissement, et que c'est le Seigneur de gloire en même temps. Voilà. Et c'est vraiment, dans tout saint Paul, c'est le parallèle entre ces deux figures de Jésus, qui est à la fois le crucifié et le Seigneur de la gloire. Mais quand on regarde l'évangile de saint Jean au pied de la croix, ben, on a cette même contemplation. À travers le crucifié, il lève les yeux et il voit son Dieu. Et Dieu de gloire. Je vous ai mis une phrase de saint Irénée qui dit « Le Verbe qui était au commencement auprès de Dieu, par l'entremise de qui tout a été fait et qui était de tout temps présent au genre humain. » Donc il y avait déjà une forme de présence, c'est ça qui est clair, et puis qui allait au-delà de la création, enfin qui était déjà en Dieu. Ce même Verbe dans les derniers temps, au moment fixé par le Père, donc c'est il y a 2000 ans, s'est uni à son propre ouvrage par lui modelé et s'est fait homme passible, passible c'est-à-dire capable de mourir, donc il va mourir d'ailleurs. Lorsqu'il s'est incarné et s'est fait homme, il a récapitulé en lui-même la longue histoire des hommes et nous a procuré le salut en raccourci, de sorte que nous avions perdu en Adam, c'est-à-dire d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous le recouvrions dans le Christ Jésus. C'est une manière aussi de contempler Jésus, vrai homme et vrai Dieu. C'est que c'est vrai homme, mais pas vrai homme pécheur comme nous. C'est le vrai homme, voilà, sans péché. Et du coup, c'est le vrai, la vraie image de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'on a toute la thématique autour du nouvel Adam. Et pourtant, c'est bien le Seigneur de gloire, le Verbe de toute éternité dans le sein du Père. Alors, je voudrais zoomer sur deux grands aspects. Un premier qui est nouveauté et accomplissement. Qu'est-ce qui est nouveau dans cette incarnation, dans cette révélation par Jésus? Et qu'est-ce qui est l'accomplissement et finalement la suite logique et comment ça va se monnayer? Et puis après, qu'est-ce que ça nous manifeste de Dieu? Puisque le thème, c'est quand même la révélation. Donc, qu'est-ce que ça nous dit de Dieu, le fait que le Verbe s'incarne? Voilà. Alors, nouveauté. Donc, on voit bien que la nouveauté de la révélation est sentie par tous les auteurs du Nouveau Testament. Donc là, on a l'Épître aux Hébreux dans l'introduction, donc c'est le tout début de l'Épître aux Hébreux. « À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, donc toujours il y a 2000 ans, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. » Donc on est bien sur une nouveauté radicale. Voilà, c'est pas juste Dieu qui a parlé, c'est il nous a parlé par son Fils, c'est-à-dire qu'il est venu en chair, en parole. L'opposition entre les prophètes et le Verbe incarné porte à la fois sur le caractère définitif de la révélation christique, par contraste avec la multiplicité fragmentaire des prophéties dans l'Ancien Testament. Donc on a un Jésus et des prophètes. On a à bien des reprises et de bien des manières. Et puis il nous a parlé par son Fils et en une fois. Et là, on est au présent. Mais c'est aussi la dignité incomparable du médiateur, qui n'est plus un messager quelconque, mais le Fils même de Dieu. Voilà, et donc c'est Dieu lui-même qui vient nous parler par sa bouche, en fait. Saint Jean, de son côté, à la fin du prologue, souligne que là où Moïse a donné une loi, Jésus a apporté la grâce et la vérité, deux qualités qui sont d'abord les siennes, parce qu'elles sont en fait celles de Dieu. La grâce et la vérité, c'est vraiment des attributs de Dieu, comme en comparaison avec les textes de l'Exode. Donc le don de la loi a donné à Moïse, eh bien la première forme qu'a prise la communication de la vie divine par le Verbe. Donc c'est bien une première partie et c'est déjà une grâce. Voilà, ce don de la loi est déjà une grâce. Tu nous as fait grâce de ta loi dans le psaume 118. Mais nous avons reçu grâce sur grâce en la venue du Verbe. Donc là, c'est grâce multipliée par grâce. Donc on est plénitude de grâce. Donc là, c'est dans toute sa totalité. Et donc la manifestation par la loi est largement dépassée par celle qui s'est opérée dans l'incarnation, grâce plus complète, plus définitive. Et la supériorité de cette grâce, plus complète, plus définitive, cette grâce des grâces, c'est se voit à travers les fruits, puisque non seulement la loi, parce que la loi, elle avait donné la connaissance du péché, c'était déjà bien, mais là, avec Jésus, en fait, on a la possibilité d'entrer dans l'amitié divine et de profiter de son soutien, parce qu'on va être libéré du péché. Et donc, c'est pas juste connaissance du péché, et puis quelques indices de façon dont il faudrait éviter de pécher. Mais c'est la possibilité réelle, par le fait qu'on a le salut et que le péché, enfin par le baptême, par exemple, l'enchaînement au péché est rompu, on a la possibilité d'entrer dans l'amitié divine. Et de la même façon, saint Paul va opposer la loi de Moïse qui est écrite sur des tables de pierre, donc qui reste un peu extérieure, finalement, à l'homme, à la loi de Jésus qui est inscrite dans les cœurs. Et là, on est vraiment, ça nous travaille de l'intérieur, ça nous transforme, et donc c'est possible. Donc l'événement du Christ est le geste absolu, le salut de Dieu, le miracle de l'alliance, à la fois libre et indéfectible, conclu entre Dieu et l'homme. Le geste exécuté, donc là on revient sur la parole performatrice, hein, c'est à la fois le acte, parole et en acte, le geste exécuté, posé et établi une fois pour toutes par la disposition souveraine de Dieu, avant que l'Église n'ait pris la parole, donc là on est vraiment avant. Il est la parole de Dieu, non plus sur les lèvres, des lèvres, non plus sous la forme d'une annonce, d'un message d'espérance, de condamnation ou de pardon, mais la parole dans la chair, dans la réalisation intégrale de tout ce qui vient de l'esprit, de l'âme, de la pensée, du désir, jusqu'aux extrémités des doigts, jusqu'au cœur ouvert et répandu. J'aime bien les... Van Balthazar, il est très... Voilà, ça nous prend partout, quoi, jusqu'au bout des extrémités. Tout ce qui est proféré avant ou après la croix, tout ce qui va vers ce fait, vers cet événement ou vient de lui, a beau avoir toute l'importance qu'on voudra, comparé au fait lui-même, Jésus, le Verbe s'est fait chair, à l'événement, cela reste secondaire. Donc on a vraiment un événement qui est la pierre, on parle de Christ comme pierre angulaire, et là on est vraiment là-dessus. L'incarnation, ça change la donne, parce que c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui se donne et qui est la parole en acte, et en chair et en os. Alors, accomplissement, pourtant, à aucun moment, il y a une rupture par rapport à l'alliance mosaïque. La loi et les prophètes gardent leur pertinence. Jésus ne cesse de s'y référer, les prenant pour guide de son action concrète. Il cite souvent l'Ancien Testament aussi, et dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». Donc, il y a, voilà. Derrière le mot « accomplissement », on peut prendre le sens du mot en hébreu qui signifie « remplir ». Donc il y a comme une idée que avec sa venue, en fait, déjà sa venue, elle remplit les prophéties, ça veut dire qu'elle leur donne leur plein sens, en fait. Sans Jésus, en fait, la lecture de l'Ancien Testament n'est pas si claire que ça. Et donc, elle nous donne Dieu, mais c'est quand même pas très simple. Avec la venue de Jésus, en fait, il remplit toutes ses prophéties, et donc il accomplit aussi dans le sens où maintenant, quand on relit l'Ancien Testament, en fait, on comprend ce que Dieu a voulu dire vraiment. Voilà. Et donc, on a la plénitude du sens. Donc, pour comprendre que Jésus vient précisément apporter cette réalisation, il faut accepter que par sa venue, il recompose les termes et la promesse et qu'il en dévoile la profondeur jusque-là insoupçonnée. On prend l'exemple de la jeune femme qui enfante. Voilà, dans Isaïe 7, bon, ça devait être un texte. Pas très sûr qu'on sache... comment c'était interprété à l'époque de avant Jésus. Et voilà, et avec le Nouveau Testament, bah, c'est Marie, voilà, et on voit bien les promesses de la réalisation. Et donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, on a pu... on comprend... Nous, c'est très difficile pour nous de comprendre pourquoi les Juifs, notamment de l'époque de Jésus, n'ont pas cru en Jésus. C'est-à-dire qu'ils lisaient pourtant l'Ancien Testament, pourtant c'est clair, c'était annoncé, c'était dit, c'était évident pour nous. C'est facile, on est après. Mais pour eux, bah en fait, non, c'est pas si évident que ça. Et on a, c'est un peu facile pour nous de plaquer beaucoup de choses. Et on le voit bien parce que quand les pèlerins d'Emmaüs, quand Jésus explique tout ce qui vient, quand il est avec les pèlerins d'Emmaüs, qu'il explique tout ce que les Écritures annonçaient de lui, bah il a fallu leur faire un cours, quoi. Pourtant, ça avait l'air d'être des bons Juifs. Hein, il n'y a pas de souci. Ils étaient au sabbat, ils faisaient pas plus que le trajet qu'il fallait. Ils connaissaient la loi, les psaumes, tout ça. Mais voilà, c'était pas si clair que ça. Il faut que lui-même Jésus vienne expliquer comment il remplit, comment ça se passe. Voilà. Donc on a vraiment ce thème de l'accomplissement et qui fait qu'il y a aussi, c'est pas un pour un, on n'est pas dans du littéral et c'est tout l'importance aussi d'une parole qui se fait chair en Jésus, c'est que du coup c'est pas juste un texte à appliquer, c'est pas juste des commandements à appliquer au sens littéral du terme, mais c'est bien une parole qui doit être remplie par une personne, qui doit être vivante et qui doit finalement s'imprégner et s'acculturer ou s'accoutumer à l'humanité. Voilà, et c'est comme ça qu'elle est une pleine donation de Dieu à l'homme. Et c'est en répondant à cet accomplissement qu'on pourra, que l'homme peut revenir à Dieu. Et c'est ce que Jésus va faire sur la croix, en fait. Donc on raconte ici une histoire qui explique l'Écriture. Et inversement, ce que l'Écriture en beaucoup d'endroits a voulu dire devient visible seulement à présent au moyen de cette nouvelle histoire. C'est un récit qui naît entièrement de la parole et cependant c'est bien lui qui donne à la parole sa pleine signification non encore reconnaissable auparavant. L'histoire ici racontée n'est pas simplement une illustration des paroles anciennes, mais la réalité que les paroles attendaient. Celles-ci, dans les seules paroles, n'étaient pas reconnaissables, mais les paroles atteignent leur pleine signification au moyen de l'événement dans lequel elles deviennent réalité. Ça, c'est ce que dit Benoît XVI dans sa trilogie sur Jésus, Nazareth, dans le troisième volet, puisqu'il a terminé par l'enfance. Il Il peut pas pouvoir finir, alors il a commencé par les deux autres, mais il a eu le temps de finir, donc tout va bien. Et donc on a aussi ce texte qui est assez chouette sur l'enfance de Jésus et qui explique pourquoi. C'est intéressant parce qu'il parle aussi d'événements, on l'a vu tout à l'heure avec Hans von Balthasar aussi. Voilà, le côté événement historique des choses, ça nous donne une réalité. Et donc c'est pas juste une belle histoire, une fable, c'est pas juste un symbole, c'est une réalité qui a pris cher et qui fait que elle transforme de l'intérieur les choses. Et donc, c'est vrai, quoi. La vérité, elle n'est pas juste illustrative. Jésus, l'aboutissement de toutes les figures de l'Ancien Testament. Donc, c'est là où on retrouve tous les thèmes messie royal, serviteur, prophète, fils de l'homme, etc. Et cette concentration va un peu à l'encontre du judaïsme post-biblique pour qui le messianisme renvoie à un horizon toujours reporté. Bon, ils avaient été échaudés aussi par beaucoup de faux messies. Donc, en fait, ils ont un peu peur de se focaliser sur un homme en disant que le Messie peut pas être un homme, en fait. Voilà. Et c'est ce qui a un peu caché, enfin, mis des œillères sur leurs yeux et qui n'ont pas vu Jésus, avec la peur que l'humanité réduise finalement Dieu et l'amoindrisse, en fait. Et ils avaient une haute idée de Dieu et donc ça n'était pas possible. Et en fait, ce que Jésus accomplit, c'est vraiment ça, c'est qu'il est à la fois pleinement Dieu et en même temps, bah, il se fait petit homme. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans la crèche, il se fait tout petit homme, quoi. Il dit rien même, en plus, dans la crèche. Enfin, sûrement qu'il crie comme tous les gamins, mais ça, c'est pas forcément très clair, à part pour sa maman, comme d'habitude. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui, donc on est vraiment sur cette thématique et de l'accomplissement. Et donc le Christ, en fait, il nous donne la clé du mystère. Donc il nous donne la clé du mystère de Dieu. D'abord parce que, comme on l'a vu dans le prologue, il vient de Dieu, donc il était tourné vers le sein du Père, donc il est vraiment là-dessus. Et il nous révèle ce qui n'a pas été manifesté aux hommes dans les âges antérieurs, comme il a été révélé de nos jours par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Jésus-Christ. Donc Éphésiens 3:5. Le mystère dont parle saint Paul n'est pas un message, c'est pas c'est même pas une théologie ou une philosophie de Dieu, sa vie, son œuvre. C'est une compréhension du plan de Dieu qui révèle en fait l'être même de Dieu et qui se révèle en acte. Dieu avait créé l'humanité dans le Christ pour avoir sur terre des créatures capables d'aimer à l'imitation du Fils éternel. Et ce projet, d'abord confié à Israël, s'est manifesté pleinement dans le Fils, fait homme et donnant sa vie sur la croix. Il se réalise maintenant dans l'Église qui adresse à tous les hommes qui sont unis sacramentellement, au Christ. Christ au milieu de vous, l'espérance de la gloire. Et pourtant, ce définitif n'est pas clos sur lui-même. Et c'est pour ça qu'on dit « le Fils de Dieu ne cesse pas d'être celui qui vient ». Dans sa présence la plus complète, que ce soit dans la crèche ou dans l'hostie, où il est complètement présent, il est là vraiment, il nous ouvre à la fois sur un monde nouveau qui nous rencontre, alors c'est vraiment les deux thématiques des mondes qui viennent en tangence avec nous, mais qui est aussi dans une forme d'attente, parce que cette plénitude, on ne peut pas la recevoir encore aujourd'hui. Et donc ce sera que dans la gloire, où on dit « il viendra », où il vient encore. Voilà, donc c'est cette thématique. Il est présent avec vous jusqu'à la fin des temps. Et il est encore plus présent quand il reviendra dans la gloire, on va dire. Mais c'est toujours lui qui est tout là. C'est nous qui ne sommes pas toujours complètement capables d'accueillir le tout, en fait. Voilà. On pourrait aussi voir le thème, mais bon, c'est sa révélation de Dieu, donc on ne va pas tout faire. Mais c'est vrai que autant au début... Il n'y avait pas de corps en Jésus, là, quand on est le Verbe était au sein de Dieu, on ne parle pas d'un corps. Maintenant, Jésus est remonté au ciel avec son corps, et donc, quelque part, son humanité, elle est aussi pour toute la fin des temps. Donc, dans la gloire, Jésus aura aussi un corps. Voilà. Donc, quand on le verra en gloire, il aura un corps. Voilà. Et donc, il y a quelque chose, quand même, de l'avenir qui n'est pas exactement le retour à l'origine. De la même façon qu'on dira jamais que la Jérusalem céleste, c'est le retour au paradis originel. C'est une autre étape et c'est peut-être encore plus grand d'ailleurs et peut-être beaucoup mieux. Je ne sais pas. Je n'étais ni à l'un et je ne suis pas encore à l'autre. Dieu en longueur d'onde humaine. Donc c'est vraiment l'un de la Trinité qui vient. Alors on va essayer de contempler ça un peu pour nous dire que c'est... qu'est-ce qui nous dit de la Trinité finalement dans le fait que le Fils vient. Déjà, il vient en tant que fils. Donc, c'est le fils éternellement égal au Père, puisqu'on a, on a bien vu que c'était le Verbe était Dieu. Donc, il est de même consubstantiel au Père, comme on redit maintenant dans le credo. Et en prenant personnellement notre humanité dans le sein de la Vierge Marie, en fait, il transpose dans le registre de la créature toute la splendeur de l'être divin, mais aussi son mode propre, qui est son mode filial. Et donc, c'est un fils qui y vient. C'est pas Dieu le Père qui s'est incarné, c'est Dieu le Fils. Voilà. Et donc, quelque part, il nous dit ce mode filial qui vient aussi dans sa propre humanité. Et donc, on voit dans son attitude de fils humain, et ben en fait, son être de fils divin. Il a tout pris d'un homme, son corps, son âme, sa psychologie, sa sociologie, sa croissance. Il n'a pas reculé devant les faiblesses, dont certaines, la souffrance et la mort, sont liées aux conséquences du péché, alors qu'il était sans péché. Il a même été tenté par le démon, au sens où il pouvait être tenté, puisqu'il était un vrai homme. Il a été fatigué, il a eu sommeil, etc. Et c'est cette humanité magnifique et limitée qui manifeste la plénitude de la divinité. Et donc, ce qu'on voit surtout dans cette plénitude de divinité, ce qu'on voit, c'est sa beauté, sa bonté de fils bien-aimé du Père, qui se montre non pas malgré son humanité, mais bien au travers de son humanité. Et c'est tous les très beaux moments où il est, où il parle à son Père et il dit « Père, je t'exalte » ou « Je t'invoque » ou voilà. Et c'est des très beaux moments d'intimité. Il est pleinement fils, y compris dans cette humanité où il fait ses demandes. Et même dans son silence de nouveau-né, qui est probablement une des paroles les plus éloquentes que Dieu puisse adresser, puisque cette parole de Dieu, elle est acte. Donc en fait, rien que le fait qu'il soit un bébé vagissant là, en fait, c'est Dieu qui est en acte, en train d'être dans le monde, quoi. Voilà. Et donc la parole, elle n'a pas toujours besoin. Donc Dieu n'a pas, Jésus-Christ n'a pas passé 33 années de sa vie à parler. C'est pas ça le sujet, c'est qu'il était lui-même et par sa parole est aussi son mode d'être. Et on voit que sa parole est pleine d'autorité. Donc là, on n'est plus sur la parole stricto sensu, mais parce qu'elle est priée et qu'elle rayonne même de tout son être. Et donc elle permet de chasser les démons, de faire des miracles, etc. Il nous révèle aussi cette attention de Dieu à vouloir sauver l'homme. Et donc, le dessein de Dieu, y compris à le sauver donner à boire à quelqu'un ou guérir quelqu'un, ou etc. Donc, c'est vraiment de ce dessein de Dieu qui arrive. Et donc, on parle avec Urson Balthazar, parle de la figure, au sens comme une œuvre d'art, en fait, où si on enlève des bouts, ou si on dissocie en prenant que la couleur, ou que le coin à gauche, ou que le visage central, ben en fait, on n'a plus la totalité de la figure, et du coup, en fait, on a perdu le chef-d'œuvre. Voilà. Et donc, dans le Christ, en fait, on peut, chaque fois qu'on va, et ça va être toutes les hérésies, vont chercher à faire ça, chaque fois qu'on tire Jésus vers juste l'humanité, vers juste la divinité, vers... juste le fait qu'il est fils, vers que la partie miracle, ou autorité, ou parole, et pas, par exemple, la croix. Voilà. Dès qu'on tire Jésus sur une partie et qu'on dissocie, bah, en fait, on n'a plus le Dieu qui s'est fait homme. Et donc, c'est qu'en contemplant tout ça, et en tenant tout ça, qu'on peut contempler Dieu. Dieu fait homme. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment clé pour se dire que chaque fois que beaucoup d'hérésies sont liées à Jésus, hein, parce que c'est compliqué de tenir un vrai homme, vrai Dieu, un quelqu'un qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, qui fait des miracles, mais qui n'est pas que un guérisseur ou un maître de science, de sagesse, mais qui est tout ça. Voilà. Et ça, c'est important. Et qui a été que un Israélite et pas, il n'a pas eu toutes les expériences de la terre entière. Il n'a pas été tout le monde, voilà. Et donc, il y a ce côté d'en rester à cette figure, et probablement que la contemplation sur la croix ou dans la crèche, parce que c'est plus le temps actuel, même dans la crèche, c'est Dieu qui est là, voilà. Même si c'est un petit enfant et qu'il ne parle pas. La manifestation du Père, donc puisqu'il est le Fils, en fait, il va nous communiquer le Père. Et là, on a tous les très beaux textes de Jean qui nous dit qui nous dit que quand on contemple Jésus, ben, en fait, on contemple le Père. Voilà. Et donc, on a un Dieu qui, a priori, est inconnaissable, invisible, immatériel, transcendant l'univers. Et en fait, il se manifeste de manière visible, tangible, corporelle et terrestre pour qu'on puisse non pas mettre la main sur Dieu et donc le comprendre comme si c'était une dissection, voilà. Donc il y a toujours quelque chose de l'incompréhensibilité divine parce qu'elle nous dépasse tellement qu'on n'a plutôt jamais fini de, de la comprendre. Mais en se rendant visible, en fait, il est à la fois le Dieu caché et à la fois tout est là. Et quand Jésus dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père, comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. » Donc on a vraiment cette... quand on contemple Jésus, ben en fait, on contemple le Père. Quelque part, on a accès à toute la Trinité. Parce qu'on a le jeu des relations, on a le dessein de Dieu, on a voilà, la Trinité qui se révèle à nous. Et c'est aussi toutes les phrases autour de « Le Père et moi, nous sommes un ». Où Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père. Donc c'est le thème, c'est comme tourner dans le sein du Père. C'est lui qui l'a fait connaître. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc la meilleure manière, donc c'est pour ça qu'on parle de révélation en plénitude en Jésus, c'est que tout nous est donné là, parce que quand on voit le Fils, on a le Père. Et que la seule manière d'accéder au Père, bah, c'est par le Fils, en fait, et à ceux à qui le Fils veut le révéler. Donc non seulement le Fils, il veut bien le révéler à tout le monde, hein, mais il faut que nous, on entende, qu'on écoute, qu'on regarde, parce que sinon, la révélation, elle tombe à côté de la plaque. Donc le Verbe incarné, l'explication est la révélation la plus parfaite et complète de Dieu, car en même temps qu'il est chez nous, il est dans le sein du Père. Et donc ce dialogue éternel entre le Père et le Fils, il fonde la communication que le Christ a avec nous, et le fait qu'effectivement, qui me voit, voit le Père. Même au temps de Jésus, alors qu'on n'est pas encore dans le temps de la gloire, voilà, on a déjà ça. En lui seul, mais par lui, pour tous, la parole divine s'unit hypostatiquement à l'homme, s'unit complètement par nature à l'homme. Entre la nature humaine et divine du Christ, aucun écart. Ce que Dieu veut dire de lui-même, il le dit humainement avec plénitude et justesse. Et donc, on a à la fois tout le discours divin en Jésus, dans son humanité, et en même temps, dans le Jésus divin, quelque part, on a aussi de l'humanité. Voilà. Et donc, tout est transparent, et donc on peut accéder. Par contre, cette communication de Dieu, tout autre, ne saurait être qu'ineffable. Donc ça reste toujours pas simple, hein, sinon, d'ailleurs, on ne ferait pas de théologie, et on serait déjà au ciel. Donc ça reste, il y a quelque chose de qui ne se dit pas, parce que c'est au-delà. Et donc la parole de Dieu éternelle et lumineuse reste inaudible et aveuglante pour les hommes. Et donc quelque part, il faut faire un travail sur soi pour se vider de nos œillères. Je parlais tout à l'heure des Juifs qui ont eu du mal à voir dans Jésus le Messie. Ben voilà, faut se vider de ses a priori, de quelque part de toute sonorité, même des cours qu'on a reçus, pour se laisser remplir de silence, pour pouvoir vraiment accueillir l'Esprit Saint et que l'âme puisse s'ouvrir à la communication indicible de Dieu. Donc l'un n'empêche pas l'autre, le discours raisonnable, la préparation de l'esprit, plus on a, voilà, plus on essaye de lire les Écritures, plus on essaye de prier Jésus, plus, voilà, plus on a des chances d'être transparent, de pouvoir faire ce silence pour accueillir cette parole qui reste toujours nouvelle et qui est toujours nouvelle. C'est pour ça qu'on a la joie de faire tous les ans Noël, parce que tous les ans, bah, c'est pas la même chose que l'année d'avant. Parce qu'il y a, voilà, il y a toujours une nouveauté et il faut laisser cette place à se laisser surprendre par Dieu. Et ce cercle-là de connaissance, c'est celui de l'amour, qui fait que, en fait, on peut connaître l'aimer que dans la mesure où on a envie de l'aimer. En fait, on a envie de. C'est l'amour qui drive la bonne connaissance. Et donc, tous ceux qui disent que pour bien comprendre Dieu ou pour bien étudier la Bible, il faut être en dehors d'eux, d'un circuit, d'un système, un dogme, etc. Ben en fait, c'est faux parce que du coup, il n'y a pas d'amour, c'est un objet d'étude et c'est du coup un objet, alors que c'est un sujet, en fait. C'est le Christ lui-même qui s'est fait homme et donc c'est un sujet qu'on veut rencontrer et il n'y a que dans l'amour qu'on peut vraiment rencontrer les choses. Et donc, on est destiné à voir, nous avons vu sa gloire, voir la gloire de Dieu, c'est le privilège du disciple qui a commencé à fréquenter le Christ. Et la gloire, c'est ce qui jaillit du rapport du Père et du Fils contemplé dans l'Esprit. Donc, c'est vraiment trinitaire. Et donc, c'est ce qu'on voit au baptême, hein, au bord du Jourdain. On a la gloire qui se voit, ou la transfiguration. Donc, voilà, il y a un rayonnement de la gloire. Et grâce et vérité, on retrouve ce qu'on a dit dans le prologue, hein, c'est les attributs de Dieu. Voilà ce dont le Christ est rempli, imbibé, au point de le laisser filtrer auprès de ceux qui l'approchent. C'est l'écho de ce qui était désigné comme vie et lumière dans le début du prologue. En nous donnant comme il nous l'a donné son Fils, qui est son unique parole, car il n'en a point d'autre, Dieu nous a dit et révélé toutes choses en une seule fois et par cette seule parole, et il n'a plus à parler. Le Père n'a dit qu'une parole, à savoir son Fils, et dans un silence éternel, il l'a dit toujours. L'âme aussi doit l'entendre en silence. C'est toute la préparation à la prière, voilà, à se laisser vider, à se laisser surprendre aussi. Mais c'est aussi se nourrir de la parole. Et donc, quelque part, lire le prologue de Saint Jean, c'est nourrir ce silence par le message même de Dieu. Alors, je voulais terminer sur Marie, qui est probablement le modèle d'accueil de cette parole, qui est à la fois cet amour, et à la fois cette écoute. Elle est remplie de la parole de Dieu aussi, au sens, elle a lu la Bible et elle a prié, tout ça. Donc l'incarnation s'est dotée d'un réceptif, alors réceptif c'est un très joli mot pour Marie, mais correspondant à la dignité du don fait à l'humanité, en Marie conçue sans péché se trouve réalisé le premier et le plus parfait accueil que le Christ a connu sur terre. Avec elle, l'humanité a reçu son Dieu et lui a fait en elle une place. Voilà. Et ce que disent les pères de l'Église, c'est qu'avant de concevoir le Verbe dans sa chair, elle l'a conçu par l'oreille, par son fiat à l'ange, et par tout ce qui a précédé le fiat, qui est elle méditait la parole de Dieu et elle voulait faire la volonté de Dieu. Voilà. C'est cette foi obéissante et droite, une foi intelligente qui s'informe pour mieux obéir, d'une foi qui se donne sans réserve à l'inconnu, une fois qu'elle a compris la solidité de la promesse. Et donc, à travers son obéissance, la parole qui est entrée en elle est en elle, elle est devenue féconde. Et on voit bien que c'est un double mouvement. C'est-à-dire que Jésus s'est incarné, l'ange a porté les choses, mais si Marie n'avait pas dit oui, il n'y avait pas de terre d'accueil, et donc il n'y avait pas de révélation possible au sens incarnation. Marie accompagne pas à pas les différentes étapes de la manifestation de Jésus. Elle est discrète, elle est là jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Donc c'est bien la totalité de la figure de Jésus qu'elle a accueillie, pas juste Jésus bébé, pas juste quand il y a les rois mages qui viennent l'adorer, pas juste à Cana, quand il fait un miracle, mais y compris la croix, y compris la résurrection, y compris la Pentecôte. Voilà. Donc elle l'accueille dans sa totalité, en essayant de comprendre à chaque fois qu'est-ce qui se passe, y compris quand elle récupère Jésus au temple, après l'avoir cherché 3 jours et qu'elle ne comprenait pas vraiment pourquoi il avait fait cette fugue. Voilà, et elle suit, et c'est vrai que du coup, elle enfante aussi l'Église, parce que finalement, elle continue, dans l'Église, il y a la présence de Jésus qui continue. Donc Marie, elle est aussi là, dans cette présence qui continue, et toutes ses interventions depuis sont bien pour nous. Voilà, donc on ne peut pas détacher la figure du Christ de Marie, et c'est pour ça qu'elle est priée par tous les saints, et un vrai... moyen de recevoir, d'accueillir et de comprendre le Christ. Et du coup, a priori, c'est par elle que, par exemple, Saint-Luc a appris plein de choses sur l'enfance de Jésus, et donc on peut avoir des textes sur l'enfance de Jésus, parce que sinon, pas très bien qu'il les aura racontés. Jésus avait sûrement pas conscience des épisodes de la crèche, donc... du coup, il faut bien que ce soit la maman qui l'ait raconté, qui était sûrement la première. Et donc, elle a transmis beaucoup de choses de ça. Voilà. Et tout ça s'est fait dans l'amour et dans l'écoute de ce que voulait vraiment Dieu, pour dire, voilà, quel message, qu'est-ce que veut me dire Dieu sur qui il est, et nous faire comprendre, du coup, elle est comme une exégète, quoi, qui nous fait comprendre ce que nous dit Dieu et ce que le Christ a fait à travers les paroles. C'est symptomatique aussi à Cana, où c'est elle qui dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Donc, elle précède, elle fait. C'est pas l'exégèse après les paroles, mais c'est avant les paroles, elle fait l'exégèse déjà. En disant « Écoutez-le et faites ce qu'il vous dit ». Donc, tout le christianisme, c'est ça, c'est cela est, au sens où Dieu l'inaccessible, ne se laisse pas enfermer ni dans les temples faits de main d'homme, ni dans des systèmes conceptuels, mais s'est révélé en présence parfaite, pleine, en appoint de l'espace et du temps, Et tout ce qu'on peut dire du Christ, de Dieu, vient de lui, vient de là. Et donc, on a le Christ qui est le signe de lui-même, comme l'ont dit les pères, et qui donc est le point d'ancrage et la pierre angulaire pour tout comprendre. Voilà, et je vous termine par un texte de Louis Bouilhet. Désormais, le sens spécifique de la parole, ce sera l'évangile, autrement dit la bonne nouvelle, l'annonce du fait du Christ embrassant son enseignement et ses actions. L'office des douze dans les actes des apôtres sera défini équivalemment par le service de la parole ou le témoignage rendu au Christ. Donc on a bien service de la parole, hein, on est bien service du Christ qui en fait la parole incarnée. C'est prise en ce sens précisé que la parole portée au monde par les apôtres sera dite parole de salut, parole de la grâce, parole de la réconciliation, parole de la croix, parole de la vérité, parole de vie ou parole vivante. Voilà, c'est toutes les dimensions de la parole qui sont celles de Dieu. Cette parole dont le Christ est à la fois la source et l'objet se confondra avec la nouvelle alliance, la nouvelle loi, la nouvelle création, lesquelles ne sont pas seulement réalisées par lui, mais apportées en lui, dans sa personne. Saint Jean, consommant ses cheminements séculaires et recueillant du même coup dans une seule intuition toute la nouveauté de l'Évangile, appliquera à la personne même de Jésus, avec le mot « logos », cette profusion de richesses. La souveraine transcendance de Dieu qui parle, la prodigieuse condescendance de sa parole parviendront en même temps à leur imprévisible maximum dans la révélation historique de la parole qui était au commencement auprès de Dieu et qui, dans les derniers temps, aujourd'hui même, s'est faite chair et a demeuré parmi nous, pleine de grâce et de vérité, en la personne de Jésus de Nazareth. Celui qui peut dire « Avant qu'Abraham fût, je suis », Saint Jean dira « Ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché de la parole de la vie, c'est ce que nous vous annonçons. »